Après le discours de Frère Burton, le chœur chantera « À douce est l'heure de prier ». Il sera dirigé par Michael Belknap et accompagné par Stacy McCarry. Ensuite, Gantuya Ganbat fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de présenter l'orateur de ce soir. H. David Burton a été appelé évêque, président, le 27 décembre 1995 et a été soutenu à la conférence générale du 6 avril 1996. Il a d'abord été premier conseiller dans l'épiscopat président, ayant été soutenu le 3 octobre 1992. Il a aussi été secrétaire de l'épiscopat président pendant 14 ans, en tant qu'officier assistant au budget de l'Église pendant un an. Avant d'être employé par l'Église, il a travaillé pour la Corporation du cuivre Kennecott et pour la Commission des impôts de l'État d'Utah. Frère Burton a ensuite obtenu une licence de finance de l'Université d'Utah et une maîtrise de gestion des affaires de l'Université du Michigan. Il a fait une mission en Australie et il a été évêque, conseiller de l'évêque, membre de grand conseil, président de pieux, conseiller dans une présidence de pieux et selleur au temple. Il est né à Salt Lake City. Sa femme Catherine Jacob et lui ont 5 enfants et 20 petits-enfants. Frère Burton.
Aloha, brothers.
Aloha, frères et sœurs. Sir Burton et moi-même sommes enchantés de passer quelques minutes avec vous ici, le campus de l'Université Brigham Young, Hawaï, en cette belle journée de sabbat, avec des jeunes adultes de plusieurs pays. C'est enthousiasmant de voir et de connaître les nombreuses cultures représentées sur ce campus et par cet auditoire. Merci de cette merveilleuse prière, Manri Subandrio. J'ai été chez Subandrio à Jakarta lorsque Manri portait encore des couches. Et je remercie le chœur pour cette belle interprétation. Vous m'avez fait venir les larmes aux yeux. C'est un jour spécial à de nombreux égards. Non seulement l'Église consacre un temple à Vancouver, en Colombie-Britannique, mais l'on m'a dit que c'est la première fois qu'une mission du DEE a lieu en dehors des États-Unis métropolitains. Nous sommes reconnaissants d'être réunis ici. Je vous remercie de votre hospitalité, Président Wheelwright, et je remercie votre équipe de rendre cela possible. Sir Burton et moi souhaiterions pouvoir rendre visite en personne aux nombreux auditeurs qui se sont réunis dans les centres de pieux et les instituts partout dans le monde pour suivre cette veille du DE. J'aime le son et le sens du mot Aloha. Vous savez peut-être que de la langue hawaïenne, Aloha veut dire de nombreuses choses, des choses comme affection, amour, paix, compassion, sympathie, même un peu de pitié, miséricorde, bonté ou grâce. Au cours des 150 dernières années, ce terme a aussi été utilisé dans le même contexte que les mots anglais « hello » et « goodbye ». Ces sentiments en font une charmante salutation courante, une expression profonde d'adieu. Le concept d'aloha est si important à Hawaï que l'esprit d'aloha est en fait défini et mentionné dans les statuts de l'État d'Hawaï. Aloha implique une démonstration de chaleur et d'affection spontanée. Cela veut dire de reconnaître l'importance de chaque personne pour l'existence collective de la communauté. Cela veut dire aussi entendre ce qui n'est pas dit, voir ce qui ne peut être vu et connaître ce qui est inconnaissable. L'esprit d'Aloha englobe de beaux principes de l'Évangile, les principes de la foi, ceux autour de « ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Il met l'accent sur l'importance de l'individu et la compassion. pendant un instant, pensez comme ce serait merveilleux si le monde entier adoptait pleinement l'esprit d'Aloha. Récemment, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, le général Petraeus a pris la parole à l'Université Brigham Young à Provo. Au début de son discours, il a manifesté son excellent sens de l'humour en énumérant 10 raisons pour lesquelles les diplômés de l'Université Brigham Young font de bons soldats. Il a dit entre autres, s'ils ne connaissent pas le grade d'une personne, cela ne pose pas de problème. Il l'appelle simplement frère ou sœur. Ils ne sont jamais absents sans permission. Ils appellent simplement cela être peu pratiquant. Ils s'emparent rapidement de n'importe quel objectif si vous leur dites qu'il y aura des rafraîchissements. Ils ont des idées novatrices pour traiter les insurgés. Par exemple, leur attribuer des instructeurs au foyer. Et enfin, ils sont, et c'est peut-être le plus important lorsque j'y pense, ils sont les plus fiables des conducteurs désignés pour ne pas boire. Il y a quelque chose de salutaire à sourire de nos particularités. Vous savez, c'est un privilège singulier que d'être fils et fille d'un Père céleste vivant et d'avoir la possibilité de communiquer avec lui et ainsi de demander que son esprit soit présent dans nos réunions et dans notre vie personnelle. Frère Sebondrio a fait une magnifique prière lorsque nous avons commencé cette réunion. Je suis sûr que nous sommes tous conscients qu'il y a une énorme différence entre faire une prière et prier. Saint Augustin conseillait il y a de nombreuses années, priez comme si tout dépendait de Dieu et agissez comme si tout dépendait de vous. Un vieux dicton que j'affectionne beaucoup déclare, il faut s'agenouiller très souvent pour être sûr de rester debout quoi qu'il arrive. Vous savez, je n'arrive pas à croire qu'un juge fédéral des États-Unis ait décrété, il y a quelques jours à peine, que le fait de demander d'observer une journée nationale de prière est contraire à la Constitution. Dans de nombreuses parties du monde, y compris aux États-Unis, la prière lors de réunions publiques et l'exposition de tout symbole religieux aux yeux du public sont considérés comme des actes anticonstitutionnels ou illégaux. Je trouve donc très intéressant un fait peu connu. Dans le district de Columbia, à Washington, D.C., il ne peut y avoir aucun bâtiment qui soit plus haut que le mémorial Washington. Le sommet en aluminium de cet édifice se trouve exactement 170 mètres et 13 centimètres dans les airs. À 170 mètres et 13 centimètres du sol. Tout en haut de ce monument, dans ce revêtement en aluminium, il y a quelques mots que les gens ne peuvent même pas voir. Les mots latins Laus Deo, L-A-U-S-D-E-O. Deux mots apparemment insignifiants, inaperçus, placés au point le plus haut dominant la capitale d'un pays important. Que signifient en fait ces deux mots latins, composés de 4 syllabes et de 7 lettres seulement? Ils veulent dire simplement louange à Dieu. Plusieurs autres références à la divinité, à notre Père céleste, ornent ce magnifique bâtiment. Louange à Dieu, Laus Deo. Lorsque nous adressons nos louanges individuelles et collectives à notre Père céleste aimant, puissions-nous nous souvenir du véritable esprit d'Aloha lorsque nous le supplions de nous accorder sagesse et jugement, et lorsque nous lui disons combien nous apprécions la bonté et la miséricorde dont il fait preuve en Père céleste sage et aimant. Le président Monson nous rappelle souvent, je cite, « Si nous nous souvenons que chacun de nous est littéralement un fils ou une fille spirituelle de Dieu, nous n'aurons pas de peine à nous adresser à lui par la prière. Il nous connaît. Il nous aime. Il veut le mieux pour nous. » Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, a dit un jour, « Lorsque je me prépare à parler à des gens, je passe 2/3 du temps à penser ce qu'ils veulent entendre et 1/3 à penser à ce que j'ai envie de dire, ce que je veux leur dire. » En utilisant la méthode de préparation de Lincoln, j'ai prié et je me suis fait du souci à propos de ce que vous avez envie et de ce que vous avez besoin d'entendre et ce que je devrais m'efforcer de vous communiquer. J'essayais de me mettre à votre place et d'imaginer ce que c'est que de marcher sur les chemins où vous marchez en 2010. Je suppose que beaucoup d'entre vous peuvent à juste titre demander « Qu'est-ce que cet homme qui a 50 ans de plus que nous peut savoir des problèmes que rencontrent les jeunes d'aujourd'hui ?» C'est une grande question et très pertinente. Honnêtement, la réponse ne concerne probablement pas beaucoup les activités quotidiennes, les tentations et tout ce que vous traversez. Il y a toutefois d'importants aspects de notre vie dont les conséquences sont éternelles et qui sont constants, qui ont toujours été constants et qui ne changeront jamais. Mon expérience peut peut-être rendre crédibles quelques observations que j'ai apprises à la dure. Lorsque j'ai demandé à mes petits-enfants qui ont l'âge d'aller à l'université ce qu'ils pensaient que je vais traiter, leur réponse était « Grand-père, reste simple. Grand-père, dis les choses comme elles sont. » Et peut-être le plus important, « Grand-père, s'il te plaît, sois bref. » Je vais faire de mon mieux pour répondre à leurs très grandes attentes. Je vais vous faire part de quelques idées qui, je suppose, peuvent être évidentes pour presque vous tous qui m'écoutez. Il est vrai que nous vivons à une époque où les nations, les cultures du monde sont en pleine tourmente. Elles sont en conflit. L'avenir de l'humanité n'est pas clair. La peur envahit trop souvent l'âme des jeunes. Beaucoup perdent la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et pour beaucoup d'autres, l'espoir n'est qu'un rêve fugace. La chasse incessante de Satan pour s'emparer du cœur et de l'âme des hommes se poursuit avec la même violence. La génération actuelle semble un peu incertaine et peut-être quelque peu troublée à cause des signaux contradictoires donnés par la société en général. Lorsque j'ai eu terminé ce que je pouvais dire et que je demandais que l'Esprit me guide, il m'a chuchoté et même crié que les jeunes de l'Église ont besoin qu'on leur réaffirme qu'ils sont littéralement les fils et les filles d'un Père céleste bienveillant, aimant et plein de sollicitude. Ils ont besoin qu'on leur réaffirme que la foi au Seigneur Jésus-Christ est importante. Ils ont besoin de savoir qu'il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur ou désespérer si nous suivons la parole du Seigneur. Ils ont besoin de savoir que l'espoir est et peut être une réalité, que les possibilités abondent, que la ferme obéissance est une condition requise pour être heureux, mais que cette vie a un but grandiose et éternel, et que Satan et ses disciples seront réduits au silence. L'Église, l'Évangile de Jésus-Christ est vrai. Les prophètes abondent dans le pays. Je suis de ceux qui voient le verre à moitié plein, et non à moitié vide. Mes jeunes amis, c'est merveilleux de vivre à cette époque. Vous et moi avons une grande mission à accomplir, une destinée divine. Et nous savons cela, et bien davantage, parce que nous avons eu la bénédiction de comprendre le plan de notre Père Céleste, le plan qu'il a conçu spécialement pour notre bonheur, si nous nous investissons dans son évangile. Charles Dodgson, auteur anglais du 19e siècle, mathématicien et philosophe, a écrit sous le pseudonyme de Lewis Carroll. Lewis Carroll, vous vous en souvenez, a écrit Alice au Pays des Merveilles et sa suite À travers le miroir. Il était également connu pour ses nombreuses citations laconiques, dont par exemple, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y conduira. C'est un peu la même idée qu'on trouve dans le poème inspirant de Robert Frost, La route la moins fréquentée, souvent citée par notre poète, prophète bien-aimé. Je vais dire quelques lignes de ce poème. Deux routes divergeaient dans un bois jaune. Et désolé de ne pouvoir prendre les deux et de n'être qu'un seul voyageur, je suis resté longtemps à regarder l'une des deux aussi loin que je pouvais, jusqu'au point où elle tournait et se perdait dans les broussailles. Alors j'ai pris l'autre, tout aussi belle, et peut-être encore plus justifiée, parce qu'herbeuse et manquant quelque peu d'usure. Bien que franchement, les passages les aient usés à peu près de façon identique. Et toutes les deux reposaient ce matin-là, sous des feuilles qu'aucun pied n'avait foulées. Ah, j'ai gardé la première pour un autre jour. Pourtant, sachant comme un chemin nous éloigne, je doutais de jamais y revenir. Un jour, je raconterai en soupirant, quelque part, dans un lointain avenir, deux routes divergeaient dans un bois. Quant à moi, j'ai suivi la moins fréquentée. Et c'est cela qui a tout changé. Parce que nous avons la bénédiction de connaître le plan de Dieu pour ses enfants éternels, nous, saints des derniers jours, connaissons notre destination ultime, ou quelle route prendre pour y arriver sains et saufs. Plus que quiconque, nous savons où nous allons, parce que nous savons d'où nous venons et où nous allons. Passons brièvement en revue, peut-être pour nous les rappeler, quelques aspects du plan de notre Père Céleste. Souvenons-nous que nous sommes tous des enfants de notre Père Céleste et que nous existions avant de venir sur cette terre. Le plan a été conçu pour apporter l'immortalité et la vie éternelle. Il n'y a eu qu'un seul plan éternel. Et lorsque le Père nous l'a exposé, nous avons tous pousser des cris de joie. C'était le plan présenté par Dieu lui-même. Contrairement à ce que certains pensent, il n'y avait pas plusieurs plans, comme nous avons parfois tendance à croire. Des éléments du plan incluaient les genres masculin et féminin. En fait, le genre masculin et féminin est une partie essentielle du plan. Le plan était ordonné avant la création de ce monde et fournissait un moyen pour que nous possédions potentiellement, tous soyons exaltés. Les familles sont ordonnées de Dieu et sont essentielles au plan de notre Père Céleste. Notre Père Céleste parle à ses enfants par l'intermédiaire de prophètes vivants. Les temples et leurs ordonnances salvatrices nous rattachent à l'éternité. Le plan exigeait que quelqu'un nous montre la voie et soit notre avocat auprès du Père. Le Sauveur Jésus-Christ a réagi avec rigueur. Et c'est offert pour que nous puissions avoir la liberté d'agir par nous-mêmes. Lucifer, ou Satan, s'est rebellé et a cherché la coercition plutôt que le libre arbitre pour que les enfants de Dieu. Lorsque nous avons poussé les cris de joie, nous sommes réjouis lorsque Jésus-Christ a été choisi. et que nous avons eu la possibilité de venir sur la terre, d'obtenir un corps, d'acquérir de l'expérience et de faire nos preuves. Lorsque nous marchons sur la route de la vie, nous sommes indubitablement censés suivre les règles et les panneaux indicateurs qui s'y trouvent. Alma, le prophète du livre de Mormon, a expliqué « C'est pourquoi Dieu leur donna les commandements, après l'avoir fait connaître le plan de rédemption, qu'ils ne devaient pas faire le mal, le châtiment en étant une seconde mort, qui était une mort éternelle, quant à ce qui avait trait à la justice, car sur cela, le plan de rédemption ne pouvait avoir aucun pouvoir, car selon la volonté suprême de Dieu, les œuvres de la justice ne pouvaient être détruites. » Fin de citation. Si nous sommes obéissants, si nous tenons fidèlement la barre de fer et suivons la route prescrite, nous pouvons nous attendre à voir la sublime et glorieuse possibilité de retourner vivre éternellement avec notre Père céleste, jouissant de toutes les bénédictions qu'il indiquait pour ceux qui passent cette existence mortelle avec excellence. En vous attachant fermement aux principes de l'Église, vous aurez un plus grand bonheur dans la vie et vous serez un exemple positif pour les gens qui vous entourent. On a le plus de chances d'atteindre le bonheur en famille. Je cite la déclaration sur la famille. Lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, la réussite conjugale et familiale repose dès le départ et constamment sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l'amour, la compassion, le travail et les divertissements sains. Fin de citation. Il est intéressant de remarquer que ces vérités simples, basées sur le plan de bonheur de notre Père Céleste, sont extrêmement mal comprises par bien des gens qui ne sont pas notre foi. Il est certain que nous avons tous besoin pour songer, de temps pour songer, de temps pour étudier, de temps pour méditer, de temps pour réfléchir à ce plan merveilleux et à penser au bonheur que notre Père Céleste nous réserve, comme cela est indiqué dans son plan pour ses enfants. Souvenez-vous que le plan du Seigneur est vraiment un plan de bonheur. J'aime bien la façon dont Gordon Binkley le formule. Notre chemin sera plus facile, nos ennuis moins nombreux, les affrontements moins difficiles, si nous cultivons un esprit de bonheur. Il est intéressant de noter qu'il y a 2 ans, en 2007, 2 grandes organisations des États-Unis, spécialisées dans les médias, ont fait une enquête parmi les jeunes de 12 à 14 ans pour découvrir ce qui les rend heureux. L'étude a fait ressortir de nombreuses découvertes, dont celle-ci. Les jeunes dépendent de leurs parents comme source vitale de sécurité et de bonheur. Deuxièmement, les jeunes recherchent de plus en plus le bonheur par la spiritualité et la foi, ce qui me surprend un peu. Troisièmement, il semble y avoir parmi la jeunesse un nouvel élan, une recrudescence d'intérêt pour les structures familiales traditionnelles. L'un des récapitulatifs de cette étude disait, même si notre recherche initiale concluait que la jeunesse actuelle est plus traditionnelle que les générations précédentes, nous avons été surpris de constater avec quelle joie les jeunes envisagent leur propre mariage et leur famille. J'aime voyager, surtout lorsque j'ai suffisamment de temps pour le faire en voiture ou par voie de terre. Un exemple de voyage nous aidera peut-être à mieux comprendre la route de la vie que nous suivons tous. Si, par exemple, vous vouliez aller du Vermont à l'est, sur la côte atlantique des États-Unis jusqu'à San Francisco, à l'ouest, sur la côte pacifique, et utiliser exclusivement le réseau d'autoroutes entre les États. MapQuest indique que l'itinéraire le plus direct ferait 4946 km et prendrait près de 48 heures en voiture. Vous imaginez bien que tout le long du chemin, il y a des centaines d'occasions de changer de direction, de changer de route, ce qui ajoute chaque fois que vous déviez la route directe quelques kilomètres au voyage. Pour vous aider à arriver sans encombre à votre destination, il y a de multiples panneaux indicateurs, de nombreux avertissements, limitations de vitesse, repères indiqués. Et vous avez peut-être même le luxe d'un GPS dans votre voiture. Chaque kilomètre s'inscrit au compteur de la voiture. Et le trajet parcouru est mesuré kilomètre par kilomètre et heure par heure. De temps à autre, au cours du voyage, il faut prendre du repos, faire le plein et chercher de la nourriture pour le corps et pour l'esprit. Dans le voyage de la vie, de la naissance à la mort, nous avons aussi beaucoup de choix à faire. Nos progrès se mesurent en partie par notre âge et par ce que nous accomplissons. Nous avons les Écritures qui nous indiquent la direction à suivre et nous donnent des avertissements, des encouragements et une carte pour orienter notre vie. Je pense que c'est James E. Faust qui se référait souvent au Livre de Mormon comme au texte pour notre dispensation. Je pense qu'il suggérait que le Livre de Mormon constitue le manuel d'instruction qui nous permet de planifier un voyage réussi dans la vie. De même que nous devons avoir confiance en l'exactitude des informations que nous trouvons sur les signaux routiers le long de l'autoroute, de même nous devons avoir un témoignage personnel des Écritures. Néphi nous a rappelé pourquoi les Écritures sont importantes pour le voyage de la vie. Lorsqu'il écrivait l'attention des lecteurs de notre époque, je cite, « Et je sais que le Seigneur Dieu consacrera mes prières pour le profit de mon peuple. Et les paroles que j'ai écrites dans la faiblesse seront fortes pour lui, car le persuadent de faire le bien. Elles lui font connaître ce qui concerne ses pères, et elles parlent de Jésus, et le persuadent de croire en lui, et de persévérer jusqu'à la fin. » Ce qui est la vie éternelle. Elle parle durement contre le péché, selon la clarté de la vérité. C'est pourquoi nul homme ne se mettra en colère à cause des paroles que j'ai écrites, à moins qu'il ne soit de l'esprit du diable. Ce sont les derniers mots que Néphi a écrits dans sa partie du Livre de Mormon. Ces deux versets de Néphi donnent au moins cinq raisons que nous avons d'étudier les Écritures, exactement comme nous étudierions une carte routière pour nous préparer à un long voyage à travers le pays. De même, le dernier prophète a contribué au Livre de Mormon, expliquait comment nous pouvons acquérir ce témoignage indispensable de la véracité du Livre de Mormon, lorsqu'il nous rappelait, je cite, Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies, et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une attention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Le processus défini par Molny inclut, premièrement, étudier, ensuite poser la bonne question. Dans ce cas, la question n'est pas « est-ce vrai ?» mais plutôt « n'est-ce pas vrai ?» Troisièmement, manifester un désir authentique de connaître la vérité. Quatrièmement, avoir assez de foi pour savoir que vous recevrez une réponse. Et cinquièmement, se préparer à recevoir une réponse du Saint-Esprit. Étant donné que notre voyage sur l'autoroute nous fait passer par un certain nombre de grandes villes, parcourues par un labyrinthe de routes allant dans toutes directions et une circulation dense et rapide, il est facile de se tromper plusieurs fois de direction, et même de se perdre, voire de se retrouver dans un cul-de-sac. La peur, voire le désespoir, peuvent s'installer pendant que nous cherchons un refuge sûr ou la bonne route. Mes chers amis, il en est de même dans la vie. Nous pouvons devenir des âmes perdues. Nous pouvons succomber aux tentations d'adversaires et, avec le temps, perdre de vue notre destination originelle. Tout au long de la route de la vie, notre Père Céleste bienveillant a prévu ses détours grâce à son plan merveilleux. Il a envoyé son Fils unique pour être notre Rédempteur et notre Sauveur. Ne vous y trompez pas. Le péché requiert la pénitence. Le prophète Alma nous rappelle que le Seigneur ne peut considérer le péché avec la moindre indulgence. Comme l'assurance que nous prenons pour protéger notre voiture en cas de dommage ou de responsabilité qui pourrait survenir pendant notre voyage sur l'autoroute, nous pouvons obtenir, par un repentir sincère et complet, les bénédictions découlant du sacrifice expiatoire de Jésus le Christ. Il a aussi prévu des sauveteurs divinement choisis, que nous appelons des évêques, pour nous aider à retrouver la bonne direction. Souvenez-vous à nouveau de la promesse du Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dans cette dispensation, le Seigneur a déclaré, « Voici celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. » C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il les confessera et les délaissera. Si vous avez pris un raccourci ou dévié du cours prescrit de la vie, votre excellent évêque peut vous aider. Allez le voir. Il vous aime. Lorsque nous traversons le pays, divers organismes gouvernementaux et autres nous offrent des primes et des avantages si notre véhicule répond à certaines normes. Ces normes peuvent être de performance, notamment dans le domaine de la sécurité, parfois des limitations de charges. Évidemment, nous devons avoir des plaques d'immatriculation et de certains endroits en récompense pour le niveau de consommation au kilomètre de notre véhicule. Si nous acceptons de nous conformer à ces exigences et prouvons que nous avons le sens de la responsabilité, nous pouvons rouler sur des voies spéciales, éviter les embouteillages, passer les péages sans nous arrêter ou bénéficier d'autres avantages. Dans la vie, notre Père Céleste attend de nous que nous passions des accords que nous appelons alliance. Il est intéressant de remarquer que tout au long de l'histoire, notre Père Céleste a traité avec ses enfants en faisant des alliances. Vous vous souvenez que des alliances ont été faites avec Adam, Abraham et Moïse. Aujourd'hui, entre autres alliances attendues de nous, nous faisons des alliances de baptême, des alliances de la prêtrise et des alliances du temple. Et nous appelons ces alliances de façon collective la nouvelle alliance éternelle. Chaque alliance mentionnée est associée à une ordonnance sacrée, absolument nécessaire à notre exaltation. Si nous respectons les alliances sacrées, notre Père Céleste nous accorde des bénédictions comme il l'a promis. Nous ne devons pas prendre nos ordonnances et nos alliances à la légère. Russell M. Nelson nous rappelle la promesse de notre Père Céleste. Son espoir pour nous est la vie éternelle. Nous nous qualifions pour cela en obéissant aux alliances et aux ordonnances du Temple. Pour nous-mêmes, pour notre famille et pour nos ancêtres. Nous ne pouvons être rendus parfaits sans eux. Nous ne pouvons pas retourner en présence de Dieu par des souhaits. Nous devons obéir aux lois sur lesquelles ces bénédictions reposent. Mes jeunes amis, nous ne connaissons ni la durée, ni la longueur de la route de la vie. Mais ce n'est qu'en en persévérant jusqu'à la fin, avec une vie fermement plantée dans le sol de l'Évangile, en restant dans le giron de l'Église, en servant humblement notre prochain, en menant une vie chrétienne et en respectant ses alliances sacrées, que nous réussirons pour trouver le bonheur dans le cadre du plan de notre Père Céleste. Pour profiter au maximum dans nos voyages en voiture, nous devons faire quelques arrêts, bénéficier de la culture locale et des points d'intérêt. Ils ajoutent tous à la connaissance, à l'entrain et à l'amélioration du voyage. Les merveilles de la nature ont été créées pour que nous les goûtions. Si nous sommes observateurs, il y a beaucoup à apprendre. Pour bien négocier la route de la vie, prenez le temps de servir et d'aller vers les autres. L'ancienne première dame des États-Unis, Barbara Bush, déclare souvent « À la fin de votre vie, vous ne regretterez jamais de ne pas avoir passé un examen de plus, gagné un procès de plus ou conclu un marché de plus. Vous regretterez le temps que vous n'avez pas passé avec un mari, un enfant, un ami ou un parent. De même qu'il vous faut un permis pour conduire une voiture, de même il vous faut une recommandation pour avoir les bénédictions que procure le service dans la maison du Seigneur. Albert Schweitzer, le célèbre théologien, médecin missionnaire et philosophe, a fait cette remarque. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Et le bonheur ne résulte que de l'obéissance aux préceptes qui se trouvent dans le plan éternel de notre Père Céleste pour ses enfants. Tandis que nous vivons notre vie journalière, souvenons-nous du but divin de notre création. Il y a peu de temps, une mère très sage de notre paroisse a aidé l'assistance à comprendre pourquoi le Seigneur donne des limites dans lesquelles organiser notre vie. Lors d'une réunion de Sainte-Cène, elle nous a demandé de fermer les yeux et d'imaginer une scène très paisible. Je vais vous demander de faire la même chose. Fermez les yeux. Fermez les yeux pendant une minute. Et laissez-moi vous décrire une scène magnifique. C'est une journée ensoleillée. La plage est très belle, avec des vagues qui roulent doucement sur le sable blanc. C'est le printemps. Et le sable n'est pas trop chaud. Vous pouvez courir pieds nus et sentir le sable entre vos orteils. Il souffle une bonne brise, parfaite pour les cerfs-volants. Vous avez construit vous-même votre cerf-volant avec du papier, des bâtons et de la ficelle. Vous avez fixé une queue de couleur vive pour lui donner de la stabilité. Vous avez très soigneusement choisi la ficelle de votre cerf-volant. C'est un excellent cerf-volant. Et vous ne voulez surtout pas le perdre. Vous voulez aussi le faire voler le plus haut possible. Prenez donc votre cerf-volant et commencez à courir sur la plage pour que le vent s'appuie sur le tissu et l'emporte dans le ciel. Il est un peu instable au début, si bien qu'il pique et plonge un peu jusqu'à ce que vous le fassiez monter assez haut pour attraper une bonne brise. Alors il commence à monter facilement au fur et à mesure que vous déroulez la ficelle. Bientôt, il est si haut qu'il n'est plus qu'un point d'un beau ciel bleu. Vous le voyez? Vous le sentez? Ressentez-vous la tension sur la ficelle quand le vent le reprend? Vous pouvez le faire descendre. Vous pouvez le faire tourner. Vous pouvez le faire plonger et planer en manipulant la ficelle. Cette petite ficelle solide maîtrise le cerf-volant et l'ancre au sol. Vous aimez cette sensation de maîtrise et la beauté du jour. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui tient le cerf-volant en l'air au juste? Est-ce le vent? On le dirait vraiment. Maintenant, je vais demander de faire quelque chose qui pourrait être difficile pour vous. Coupez vite la ficelle. Laissez partir le cerf-volant. Donnez-lui la liberté de voler plus loin et plus haut. C'est sûr, le vent le maîtrise et gardera en sécurité. Mais que se passe-t-il maintenant que la ficelle est coupée? Le cerf-volant commence à se tortiller, à s'agiter, à tomber et à plonger. Et finalement, il retombe vers la terre. Le vent le pousse plus loin lorsqu'il perd de l'altitude. Vous ne le voyez plus. Et vous savez qu'à la fin, il va tomber par terre. Ce beau cerf-volant que vous avez passé tant de temps à assembler ne se dirige plus vers le ciel, mais va tomber par terre. Et aucun vent ne le soulèvera plus. Éprouvez-vous un sentiment de déception et de perte? Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. La réalité, c'est que bien qu'il semble que la ficelle restreigne vraiment le cerf-volant, en fait, c'est elle qui, en fait, lui permet de prendre son essor, d'être ce pour quoi il a été fait. J'ai tenté de peindre dans votre esprit une image en mots, celle d'un principe de l'Évangile qui est la clé de notre salut. Le cerf-volant représente chacun de nous. Dieu nous a créés à son image et nous sommes beaux à ses yeux. Il a fait un excellent travail, mais il ne nous force à rien. Ce qu'il nous a donné, c'est un lien solide avec lui, comme la ficelle du cerf-volant. La ficelle représente les directives qui mènent au bonheur et la vie éternelle, contenues dans son plan merveilleux. Chaque voyage a un début. Chaque voyage a une fin. Et généralement, il y a quelques haltes en chemin. Avec un peu de chance, les pannes et les problèmes mécaniques seront rares. Où que vous vous trouviez actuellement sur l'autoroute de la vie, il pourrait être utile et même sage d'évaluer objectivement la santé et la vitalité de votre vie spirituelle, exactement comme vous contrôleriez la pression de vos pneus et niveau d'essence avant de partir en voyage. Si votre bien-être spirituel est entravé par le péché, la temporisation, l'indifférence, la luxure, la drogue, l'impudeur ou n'importe quelle autre maladie, il est temps maintenant de prendre des résolutions. J'aime le conseil de Mère Teresa qui disait « Hier est passé, demain n'est pas encore là, nous n'avons qu'aujourd'hui. Commençons. » Si le président Kimball était ici, il dirait « Commençons tous. » Puis il ajouterait, commençons tous immédiatement. Ne différons pas l'occasion d'avoir pleinement part au bonheur qui découle d'une vie juste et productive. Au fil des ans, j'ai eu le grand honneur de faire quelques trous de golf à différentes reprises avec Jan Nicklaus, Johnny Miller, Mac Weir et Arnold Palmer. Ce sont tous des hommes très impressionnants et de remarquables golfeurs. Alors que je jouais avec Arnold Palmer, il s'est produit un événement apparemment sans importance qui a eu sur moi un effet profond et durable. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cette histoire que j'ai racontée de ma mission en Australie. Après le coup d'envoi, je me tenais près de la balle de M. Palmer alors que son jeune caddie décrivait certains risques du trou que nous jouions alors. La conversation était à peu près, le jeune caddie à M. Palmer, « Monsieur, près du green et juste à gauche, il y a un petit ruisseau qu'on ne voit pas. Et à droite, ils ont aussi laissé pousser les herbes longues 5 cm plus haut. » M. Palmer au caddie, avec fermeté et concision, mais gentiment, « S'il vous plaît, jeune homme, ne plantez pas dans mon esprit ce qui est à gauche. » Et quel risque je peux courir à droite? Le seul renseignement important, la distance qui sépare cette balle du but. Je crains que, trop souvent, dans la vie, nous nous concentrions sur ce qui est à gauche et sur ce qui pourrait être à droite, et non ce qui se trouve tout droit au milieu. John Gardner, ancien ministre de la Santé et de l'Éducation, relevait « Nous affrontons continuellement une série de grandes occasions brillamment déguisées en problèmes insolubles. La résolution de nos défis spirituels est une occasion que nous pouvons tous saisir avec succès. Il a été dit, ce que nous faisons dans la vie a des répercussions dans l'éternité. Mes jeunes amis, puissions-nous réussir notre voyage sur l'autoroute de la vie et goûter le bonheur qu'apporte un investissement total dans le plan de notre Père Céleste pour nous. Oui, c'est merveilleux de vivre à notre époque. J'exprime mon amour et mon respect pour chacun d'entre vous. Et je saisis cette occasion pour demander à Dieu de vous bénir, afin que vous connaissiez le bonheur dans votre vie personnelle, en suivant le plan de Dieu avec fidélité, que vous ayez le discernement nécessaire pour identifier ce qui est bien et éviter ce qui est mauvais, que vous receviez une joie durable à servir dans son royaume, aussi bien qu'à réussir dans vos objectifs d'études ou de carrière. Je sais que Dieu, que Jésus vit. Je sais qu'il est notre Sauveur. Je sais qu'il a expié pour nos péchés. Je suis reconnaissant qu'il soit notre avocat auprès de notre Père Céleste. Je sais que les paroles contenues dans les Écritures, particulièrement dans le Livre de Mormon, c'est un guide qui nous aide à négocier le voyage de la vie et à retourner en présence de notre Père Céleste avec une pleine mesure de bonheur. Je suis reconnaissant et j'exprime ma gratitude pour les prophètes actuels. Je sais que nous avons la bénédiction d'avoir aujourd'hui un prophète, Thomas S. Monson. Je le sais et vous en témoigne au nom sacré de Jésus le Christ, notre Rédempteur et Sauveur. Amen.